Bonjour à toutes, bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse, très heureux d'être avec vous encore aujourd'hui via l'Internet. Et on est très reconnaissant pour la technique qui nous permet de faire ces cultes ensemble et on se réjouit vraiment des moments qu'on va passer autour de sa parole. Vraiment, ce temps de confinement, il nous permet peut-être de découvrir ou de redécouvrir une grâce négligée, le culte familial. Comme raconte Jason Elopoulos dans son livre sur le sujet du culte familial, une grâce négligée que je ne saurais trop vous recommander, eh bien une dame lui rapportait que pour certaines familles, en particulier les familles avec des jeunes garçons actifs, énergiques, il y a des jours où traverser la Manche à la nage, en pleine tempête, avec un poids de 25 kilos autour des chevilles et des poissons qui viennent vous mordiller les orteils, semble non seulement une entreprise plus envisageable, mais aussi une perspective beaucoup plus agréable que de tenter de garder ses enfants assis dans le calme pendant plus de 3 minutes. Alors, un culte familial, c'était impensable pour cette femme. Et pourtant, elle avait tenté l'aventure, et cette aventure s'était avérée être l'une des plus grandes bénédictions pour toute sa famille. Il semble que de nos jours, la majorité des chrétiens évangéliques sont conscients de l'importance d'un culte personnel et d'un culte en église, mais que le culte familial soit tombé un peu en désuétude. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais dire un mot aux personnes seules. Vous savez, c'est lorsqu'on est privé d'une chose que l'on en mesure véritablement l'importance. Vous, probablement, plus que les familles, savez à quel point pouvoir partager sa foi et s'encourager dans la lecture de la Bible et la prière, c'est une véritable grâce, un privilège malheureusement négligé par ceux qui pourraient en jouir. Aussi, vous qui êtes seul, j'aimerais vous demander de vous joindre à moi dans la prière pour que les familles de notre Église ne se privent pas de cette grâce, mais qu'au contraire, elles s'en saisissent pleinement. Priez avec nous, s'il vous plaît. Le culte de famille, c'est notre responsabilité. En fait, c'est notre responsabilité d'enseigner nos enfants en tant que parents. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 18 et au verset 19, Dieu parle au sujet d'Abraham et il dit « Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Comment Abraham a-t-il enseigné ses enfants? Il n'y avait pas d'église. Abraham a dû les enseigner à la maison et partager avec eux ce que l'Éternel a fait pour lui et les promesses qu'il lui a faites. Durant toute la période des patriarches, il n'y avait pas d'autre congrégation que la famille. Et cela n'a pas empêché l'adoration et la vérité de Dieu transmise de génération en génération par le biais des familles. C'est plus tard, en fait, du temps de l'Exode, que les cultes communautaires ont commencé à voir le jour avec la nation d'Israël, le tabernacle, les prêtres, etc. Toutefois, même lorsque Dieu donne la loi à son peuple et l'établit comme nation pour sa gloire, il réitère l'importance d'enseigner la parole dans la famille. En Deutéronome chapitre 6 et au verset 6 et 7, voilà ce qu'il dit. Deutéronome 6, versets 6 et 7. « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » C'est notre responsabilité en tant que parents d'enseigner nos enfants à connaître Dieu, à l'aimer et à trouver leur plaisir en lui. Le livre des Proverbes, c'est la teneur du livre des Proverbes, où il est répété sans cesse « Mon fils », ça apparaît plus de 25 fois, je crois. Le Proverbe chapitre 1, verset 8 dit « Mon fils, écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère ». Voyez-vous, le confinement nous oblige à revenir aux fondamentaux. L'Église, ce n'est pas le bâtiment, et la vie chrétienne ne se limite pas aux 2 heures que nous passons ensemble le dimanche matin habituellement. Lorsque les parents abandonnent leur responsabilité d'instruire leurs enfants dans la foi, ils s'attendent à ce que l'Église le fasse à leur place, et cela en 30 minutes le dimanche. Mais le pouvoir est entre les mains des parents. Les yeux de vos enfants se portent naturellement vers vous, parents. Ils aiment ce que vous aimez et ils méprisent ce que vous méprisez. Si donc le Seigneur et la communion avec lui revêtent toute son importance dans votre foyer, alors vos enfants en seront naturellement influencés. De toute façon, ils seront influencés par ce qui est mis à l'honneur chez vous, que ce soit la réussite professionnelle, que ce soit le stade toulousain, les biens matériels, ou que ce soit Dieu. Mais bizarrement, le foyer est peut-être aussi l'endroit où il est le plus difficile de vivre sa vie chrétienne. Parfois, c'est plus facile de manifester le caractère de Jésus-Christ à l'église, au travail ou dans la communauté qu'au sein même de notre foyer. Parce que on voit souvent notre foyer comme un refuge. On se laisse aller dès que l'on franchit la porte de notre foyer. On enfile des vêtements confortables, on se détend, on se met dans le canapé. Et à bien des égards, on fait la même chose sur le plan spirituel. On relâche notre vigilance, on baisse la garde, on laisse la familiarité, le confort à nous endormir. On devient moins vigilant dans notre lutte contre le péché et notre poursuite pour la sainteté. Il est prouvé que la plupart des accidents de la circulation se produisent à moins de 2 km de notre domicile. Pourquoi ? Tout d'abord parce qu'on emprunte cet itinéraire plus souvent qu'un autre, mais aussi parce qu'à l'approche de la maison, on se détend, on relâche notre vigilance. Eh bien, le culte familial nous rappelle quotidiennement à la vigilance, à l'encouragement, à la ferveur. Le culte familial favorise la paix dans la maison. Si chaque jour la famille se rassemble pour remercier Dieu et le louer, mais ça laisse beaucoup moins de place au mécontentement. Et vraiment, l'atmosphère de la maison va changer. Alors, que faire dans un culte familial? Le culte de famille, c'est le moment où on se réunit pour lire et louer Dieu. Alors moi, je vous encourage vraiment à commencer avec des courtes portions. 10, 15 versets, ou un chapitre maximum. Et avec des livres simples, des passages narratifs en particulier. Si vous avez des enfants en bas âge, vous allez les captiver par les histoires de la Bible. Ils ont besoin d'apprendre les histoires de la Bible. Lisez d'une manière suivie. Il faudra parfois donner un mot d'introduction, rappeler le contexte, mais vous n'avez pas besoin de faire une étude biblique. Chacun écoute la Bible et se laisse interpeller par Dieu. Il est intéressant de se poser quand même des questions. Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu? Qu'est-ce que j'apprends sur moi, sur les hommes en général? Comment ce passage se connecte avec l'Évangile et la grande histoire de la rédemption? Ici, j'aimerais vous lire l'introduction de « La Bible te raconte Jésus », encore un excellent ouvrage. Voilà ce qu'il dit. Pour certains, la Bible est un livre de règles et qui t'explique ce qu'il faut faire ou ne pas faire. La Bible contient bien certaines règles. Elles sont là pour nous montrer comment vivre le mieux possible. Mais la Bible ne parle pas que de toi et de ce que tu devrais faire. Elle parle avant tout de Dieu et de ce qu'il a fait. D'autres personnes pensent que la Bible est un livre de héros que tu devrais prendre en exemple. Bien sûr, il y a des héros dans la Bible, mais, et tu vas vite t'en rendre compte, la plupart des personnages de la Bible ne sont pas du tout des héros. Ils commettent de graves erreurs. Parfois, ils le font exprès. Ils prennent peur et ils s'enfuient. Parfois, ils sont même carrément méchants. Non, la Bible n'est pas un livre de règles ou de héros. La Bible est avant tout une histoire. C'est l'histoire d'un héros venu d'un pays lointain à la recherche de son trésor perdu. C'est l'histoire d'amour d'un prince vaillant qui abandonne son palais, son trône, tout pour porter secours à celle qu'il aime. Par exemple, si vous êtes arrivé dans votre lecture à 1 Samuel 17, est le récit du combat de David contre le géant philistin Goliath. Faites bien attention. Le but n'est pas que nous imitions David, même si son courage et sa foi peuvent nous inspirer. Parce que dans quelques jours, vous arriverez à 2 Samuel chapitre 11 et le récit de son adultère, de sa lâcheté et de son crime. Et là, il ne faudra pas l'imiter. Le récit de David contre Goliath nous présente l'Évangile. Le peuple de Dieu était dans la détresse, dans l'abattement, dans la crainte. Mais Dieu allait faire quelque chose pour son peuple. Il enverrait quelqu'un pour les sauver. Un jeune berger de Bethléem auquel on n'avait pas prêté attention et qui terrassera le géant et délivrera le peuple de l'oppression. Voyez-vous, c'est bien entendu pour nous préparer à reconnaître l'histoire plus glorieuse encore d'un jeune héros né aussi à Bethléem que Dieu nous enverrait, qui remportera un combat bien plus grand encore pour sauver les hommes pécheurs. Il terrassera le diable, le péché et la mort, en donnant sa propre vie et en ressuscitant d'entre les morts. Oh, lisez les Écritures avec vos enfants, simplement pour connaître, pour partager et pour connecter avec la grande histoire de l'Évangile. En Deutéronome chapitre 6, il est aussi mention, verset 20, « Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, nous a prescrits ?» Eh bien, à n'en pas douter, le culte familial sera aussi l'occasion de répondre aux questions de vos enfants. Alors, attention, ne bluffez pas. Si vous n'avez pas la réponse, cherchez-la ou trouvez quelqu'un qui la connaît. Mais n'inventez pas. Pour ma part, j'ai une Bible d'études. Et ça m'a souvent aidé pour répondre aux questions de mes enfants. Parfois pour revoir le contexte historique, pour pouvoir apporter des éléments supplémentaires. En tout cas, tirez le maximum des questions qui jaillissent de la bouche de vos enfants. Voilà qui devrait nous amener à louer Dieu, n'est-ce pas, dans la prière. À reconnaître notre besoin de lui, à confesser nos fautes, à nous réjouir en lui de sa victoire et de son amour pour nous. Enseignez à prier à vos enfants. Oh, pas simplement, vous savez, cette prière enfantine, que tout se passe bien, que même les adultes font. Ou que le virus meurt rapidement. Mais plutôt que Dieu accomplisse son dessein dans nos cœurs et dans le monde, et qu'il se révèle à nous dans ce temps de confinement, qu'il travaille des cœurs afin qu'ils soient délivrés de la crainte de la mort en plaçant leur confiance en Jésus-Christ. Apprenez-leur à célébrer Dieu pour ce qu'il est. Notre Dieu est souverain. Il domine au-dessus de toutes les circonstances. Il nous aime au plus haut point. Il l'a prouvé en donnant son Fils bien-aimé sur la croix. Il est un Dieu fidèle qui entend la prière de ses enfants. Il est un Dieu puissant pour accomplir toute sa volonté. Il est le Dieu sage. Il est le Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Il pardonne nos fautes. Il est le Dieu bienheureux. Il n'est jamais pris au dépourvu, frustré ou déçu. Il sait de quoi nous sommes formés. Il sait que nous sommes que poussière. Et pourtant, il a tout accompli pour que les pécheurs tels que nous puissions vivre éternellement dans sa présence, délivrés du péché et de toutes nos limitations, consolés à jamais de toutes nos souffrances et transformés à la ressemblance de Jésus-Christ. Partagez quelques sujets de prière, priez pour les frères et sœurs de votre église, priez pour votre voisinage, pour les amis, pour les copains de l'école, priez pour les collègues. Et puis, arrêtez-vous là. Oh, bien entendu, vous pouvez encore chanter un cantique, vous pouvez mémoriser un verset, vous pouvez lire le nouveau catéchisme pour la cité. Mais ne compliquez pas ce moment. Parce que ça n'est pas facile de faire un culte familial et de le tenir dans le temps. Nous échouons dans le culte de famille dès qu'on le rend compliqué. On vise trop haut. Le culte de famille est une chose simple. Nous avons juste besoin de réunir la famille, d'ouvrir et lire la Bible et de prier ensemble. Ne cherchez pas à rattraper en un soir toutes les fois que vous avez négligé de vous réunir. Visez plutôt 10-15 minutes. Mais si un jour des questions fusent ou si le moment de prière se rallonge, profitez-en. Vous n'allez pas non plus enseigner tout le conseil de Dieu en un seul soir. L'apôtre Paul a mis des années pour l'enseigner aux Éphésiens. Visez plutôt à long terme. Vos enfants devraient rester chez vous quelques années normalement. Vos enfants, pas plus que vous, ne se souviendront de tout ce que vous avez vu, de toutes les vérités enseignées, de tous les passages lus. Mais ils se souviendront de l'ambiance, de l'atmosphère de ces moments. Et c'est pourquoi veillez à ce que ces moments soient respectueux, qu'ils soient joyeux et enfin qu'ils soient réguliers. Respectueux, puisque centrés sur Dieu. En Deutéronome 6, verset 2, il dit « Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, ton fils et de ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. » Oui, il y a une... On a besoin d'instruire nos enfants dans une certaine crainte de Dieu. Il ne s'agit pas d'inculquer la terreur ou l'effroi devant une personne méchante. Non, Dieu seul est bon. Mais on devrait les instruire dans la profonde conviction que Dieu est parfaitement juste et qu'il ne joue pas avec le péché, que Dieu mérite toute notre attention. C'est pour ça que ici, je vous conseille de faire en sorte que les enfants ne viennent pas dans ce moment de culte avec leurs jouets. Non, qu'ils viennent avec leur Bible. Mais faites de ce moment un moment où toute notre attention est centrée sur Dieu. On peut être en pyjama, on peut être allongé sur son canapé, peu importe. Mais que notre attention soit portée sur sa parole, sur sa personne. Faites de ce moment un moment joyeux. La Bible dit qu'il y a d'abondantes joies devant sa face, des délices éternels à sa droite. Et en Deutéronome chapitre 6, verset 3, il dit « Afin que tu sois heureux, c'est pour notre bonheur que Dieu nous rappelle de lire les Écritures. » Et on devrait se souvenir de cela. C'est un moment festif, c'est un moment où on découvre qui est notre Dieu. Et puis, faites de ce moment un moment régulier. Puisque ces moments sont révélateurs de ce qui est vraiment important dans notre vie. Vous avez remarqué, en Deutéronome 6, 7, il dit « Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. » C'est-à-dire qu'il nous demande d'être constants, quels que soient les jours, quelles que soient les activités, quels que soient, voilà, qu'on soit constant. C'est là où vous devrez vous souvenir que le culte de famille n'est pas un devoir à accomplir, mais bien plutôt un moyen de grâce que Dieu nous donne pour notre bonheur. Ce n'est pas un fardeau à porter. Ce n'est pas un moyen où on va essayer d'épater Dieu. Non, c'est inutile de se mettre la pression. Si l'on manque un soir, on reprendra demain, c'est tout. Mais reprenez. Veillez à ne pas non plus régler les affaires de la famille lors de ce moment. Ce n'est pas le moment pour blâmer vos enfants pour les tâches qu'ils n'ont pas faites ou pour leur donner une leçon de morale. Ce sera peut-être un temps, oui, pour vous humilier en famille, pour vous demander pardon ou vous réconcilier. Mais que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. La difficulté est grande pour maintenir dans le temps un culte en famille. Pour notre famille, je peux dire que ça a été toujours une lutte. Les activités, les horaires, les plannings changent, il faut s'adapter. Mais essayez de trouver un moment qui convient le mieux pour essayer de vous y tenir. Pour cela, il faut en faire une priorité. Ce temps de confinement a réduit considérablement nos activités. Et c'est vraiment le moment pour mettre en place ce temps en famille. Si vous ne l'avez jamais encore fait. A.W. Tozer, un pasteur, a dit « Nous, les chrétiens, nous devons simplifier notre vie. Sans quoi, nous perdrons des trésors inestimables, ici-bas et dans l'éternité. La civilisation moderne est si complexe qu'elle rend la vie de piété personnelle presque impossible. Le besoin de solitude, de tranquillité, n'a jamais été aussi grand qu'aujourd'hui. Je crois vraiment que Dieu nous offre cette occasion de nous recentrer sur l'essentiel. Je voudrais aussi vous encourager à vous soutenir les uns les autres dans cette résolution. Une famille, c'est une équipe. Et même si le père devrait jouer le rôle de capitaine, on a besoin de tout le monde pour s'encourager. C'est mon épouse qui nous a relancés dans notre culte de famille ces derniers temps. On a tous besoin de s'encourager dans ce domaine. Avez-vous remarqué que les choses les plus utiles à nos âmes, les plus importantes pour nos familles, celles qui ont des répercussions éternelles et des répercussions les plus grandes, sont aussi les choses les plus difficiles à mettre en œuvre et à maintenir dans notre vie. Est-ce surprenant ? Non, si nous croyons que nous avons un ennemi, nous pouvons croire aussi qu'il fera tout pour nous détourner des choses qui nous conduisent, nous et nos enfants, à Dieu. On peut parler de l'importance des cultes de famille. On peut discuter de la façon dont on devrait les pratiquer. On peut se mettre en garde sur les mauvaises raisons de le pratiquer. Mais à moins qu'on s'y mette maintenant, on n'obtiendra aucun résultat. Et c'est pourquoi, après le cantique que l'on va chanter, j'aimerais vraiment que vous priez ensemble pour la mise en œuvre d'un culte de famille, si ça n'est pas encore fait. Et si c'est déjà fait, de vous réjouir encore de cela, et de louer Dieu, et de lui demander de vous permettre de le garder longtemps en place dans votre vie. Réunissez-vous, posez la question à quelle heure vous allez vous retrouver, dans quel coin de la maison vous allez vous retrouver. Parents, lancez-vous. Lancez-vous. Les enfants, je compte sur vous pour que vous souteniez ce moment et que vous fassiez de ce temps en famille un moment respectueux, joyeux et régulier. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Elle est la vérité. Elle nous révèle, Seigneur, ta personne et tout ce que tu as accompli pour nous. Seigneur, elle regorge d'un trésor merveilleux qu'est l'Évangile, dont nous avons besoin jour après jour. Et nous avons besoin, Seigneur, de le transmettre à nos enfants pour leur bonheur et le nôtre. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour que tu nous secours, pour que nous arrivions à mettre en place dans nos familles eh bien ces temps, que nous puissions nous réjouir ensemble devant ta face, que nous puissions prendre ta parole très à cœur pour y obéir, pour la pratiquer jour après jour. On te prie, Seigneur, que tu nous aides à mettre en œuvre ces vérités et ces cultes de famille jour après jour dans nos vies. Pas simplement le temps d'un confinement, mais Seigneur, bien au-delà. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, parce que tu nous secoureras, nous le croyons, par Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Encore un cantique pour réjouir nos cœurs. Bon dimanche à tous.